enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Alléluia.
Amen.
Ce matin, on va parler d'un sujet
qui
est le sujet des chrétiens rétrogrades. On va en parler parce que c'est un sujet qui est assez vaste. Ça va être un peu juste de faire ça en une seule fois. Mais on va parler des chrétiens rétrogrades. Vous savez, dans les temps où nous sommes, l'évangile n'a jamais été autant prêché. Il
n'y
a jamais eu autant de prédications de l'évangile. Autant de moyens directs ou médiatiques qui ont amené les gens à entendre le message de Christ. De plus en plus, l'évangile progresse et progresse très rapidement. Au travers d'églises, il y a de plus en plus d'églises qui sont bien fondées aujourd'hui dans le monde. Il y a encore d'immenses progrès à faire dans certains pays, entre autres dans le nôtre. Mais on a de plus en plus d'églises qui sont vraiment fondés, qui donnent une bonne parole de Dieu. Il y a de plus en plus de moyens médiatiques, de DVD, de cassettes vidéo, de radio, par Internet, vous avez toutes sortes de choses. Il y a le message de l'évangile qui est mis, des témoignages, des retransmissions d'immenses réunions où des gens sont touchés par la puissance de Dieu. Et il est vrai que la moisson est grande et que la moisson s'engrange régulièrement. L'évangile progresse. C'est vrai que la population progresse énormément aussi. La population mondiale. Mais il faut dire, l'évangile progresse. L'Église avance. Il y a des gens qui n'étaient pas chrétiens, des nations qui étaient complètement fermées à l'évangile, qui s'ouvrent de plus en plus à l'évangile, d'une façon directe ou indirecte. Parce qu'il est vrai que l'évangile ne peut pas être prêché par partout dans le monde librement encore aujourd'hui, loin de là. Et il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont sauvés, qui sont touchés par la grâce de Dieu. Et en cela, on doit continuer. L'œuvre de Dieu doit continuer. L'évangélisation doit se faire encore plus. Les gens doivent être touchés davantage. Ils doivent entendre qu'il y a un sauveur qui peut intervenir dans leur vie personnelle. Que leurs péchés peuvent être pardonnés par la grâce de Dieu. Qu'ils peuvent naître de nouveau. Ça, il le faut. Mais parallèlement à cela, je dois le dire, et c'est un phénomène assez mondial aussi, il y a beaucoup de gens qui rétrograde. Beaucoup de gens qui ont fait une réelle expérience avec Dieu reviennent en arrière et marchent à nouveau dans le péché. Et nous allons voir ce que dit l'Écriture à propos de cela. Parce qu'il faut le dire, ce n'est pas un phénomène nouveau. Même au temps de Paul, ça existait. Regardez ce que Paul va dire dans 2 Timothée 4, verset 10. 2 Timothée 4, 10. Ce matin, je vais vous montrer ce que c'est qu'un rétrograde. Et on va voir pourquoi des chrétiens rétrogrades. Mais aussi, on va voir que certains s'appellent chrétiens et ne sont pas de vrais chrétiens. Au verset 9 de 2 Timothée 4, Paul dit la chose suivante à Timothée. « Tâche de venir au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » Donc c'est clair, si Démas a abandonné Paul, entre guillemets, c'est pas Paul seulement bien sûr, et retourné pour le siècle présent, ça veut dire qu'il a laissé tomber le Seigneur, c'est clair. Pourtant dans Colossiens 4, au verset 14, Démas faisait partie au début du ministère de Paul d'un de ses proches, ou en tout cas des gens qui étaient utilisés par Dieu, c'est clair. Dans Colossiens 4, 14, il est dit « Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. »
Et nous
savons que Luc
a
rejoint l'équipe apostolique
de
Paul et de ses amis donc,
pendant
les voyages missionnaires à partir d'acte
16. Et
on sait que donc, Luc étant un proche de Paul aussi, Démas apparemment était dans le cercle proche
de Paul.
Donc c'est clair que le rétrogradage parmi les chrétiens ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose qui existe déjà depuis très longtemps, et nous devons apprendre à savoir ce que c'est qu'un chrétien rétrograde, savoir quelles sont les raisons principales du rétrogradage des chrétiens et savoir quoi faire, comment prier et comment les aborder.
Alors,
je ne sais pas si j'aurai le temps de tout faire dans un sermon, mais en tout cas on va au moins avancer sur ce sujet. Par contre, il y a une chose qui nous choque un peu quand on vient de se convertir. Parce que quand on vient de se convertir, on reçoit la grâce de Dieu. Notre esprit est recréé. On devient donc une nouvelle créature. Et d'un seul coup, donc on est sorti du royaume des ténèbres, de l'emprise du diable. On rentre dans le royaume de Dieu. Et Dieu nous a touchés par sa puissance, par sa grâce, par son amour. Et il y a un amour qui déborde de nous. Et quand on rencontre un vrai chrétien, il y a quelque chose, il y a une communion spirituelle qui est là. Et puis un jour, alors qu'on est bourré d'illusions, il faut le dire, parce qu'on a une perspective de la vie chrétienne qui est fausse quand on se convertit, un jour on entend parler que telle ou telle personne est retournée dans le monde, ne vient plus à l'église, n'est plus du tout attachée au Seigneur, et puis finalement a reglissé dans le monde. Parfois même ce sont des gens qui nous ont amenés au Seigneur, d'autres fois c'était des gens qui pouvaient avoir des responsabilités dans l'église, toutes sortes de gens qu'on voit parfois, d'autres des fois on les a même vus prêcher, commencer à être dans le ministère, et puis quelques années plus tard ils ont complètement dégringolé. On s'aperçoit qu'ils se sont vautrés dans le péché à nouveau, et alors ça nous choque. Moi, la première fois où j'ai entendu qu'un chrétien avait abandonné le Seigneur, je me suis dit, est-ce que c'est possible ça? Je pense que certains d'entre vous, largement, vous vous êtes posé la question, comment est-ce que quelqu'un qui peut avoir reçu la grâce, comme moi j'ai reçu la grâce, l'amour du Seigneur, d'un seul coup va délaisser le Seigneur et va retourner dans le monde alors qu'on sait d'où on a été tiré? Et effectivement, la Bible nous montre que c'était aussi le cas lors du premier siècle. Donc, il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, il est clair que nous sommes dans un siècle où il y a beaucoup de gens qui rétrogradent. Et il y a certaines raisons à cela. Mais d'abord, j'aimerais qu'on comprenne un petit peu plusieurs choses à propos des gens qui rétrogradent. Vous savez, dans les techniques des évangélisation aujourd'hui, c'est vrai que l'évangile est beaucoup prêché, mais je dois le dire, il y a beaucoup de manque de puissance chez beaucoup de gens qui prêchent l'évangile. Parfois l'évangile est présenté de façon très intellectuelle. Moi je le vois bien sur les sites internet où on présente le message de l'évangile. Je parlais avec un directeur du plus gros site internet francophone
et
il nous disait, oui, nous avons sur notre site quasiment toutes les 3 minutes quelqu'un qui se convertit.
Et puis
en parlant ensemble, il savait, après il a rectifié, il dit oui, qui prie la prière du pécheur. Parce qu'après on a discuté beaucoup plus profondément. Et je le vois bien aussi sur le site Enseigne-moi, on a une animation pour vrais et faux chrétiens. Et c'est moi qui réponds aux mails. Et je dois dire que sur les mails que nous avons, il y a quelques personnes qui vraiment font une démarche et vraiment naissent de nouveau. Mais la plupart des gens sont là pour essayer comment ça marche. Beaucoup de gens s'approchent dans les croisades. Et ça nous étonne toujours. On dit, oui, gloire à Dieu. Il y a 1 000 personnes qui se sont converties. Il y a 10 000 personnes qui se sont converties. Il y a 2 000 personnes qui se sont converties. Il y a 50 personnes qui se sont converties. n'allons pas trop vite avec les chiffres. Parce que souvent,
on
s'apercevra
qu'on
veut récolter des fruits qui ne sont pas du tout
mûrs.
Beaucoup de gens prient la prière du pécheur. Et personnellement, je ne suis pas contre certaines techniques et méthodes d'évangélisation. Il y a d'excellents cours là-dessus. Et c'est des choses qu'on doit apprendre. Nous faisons l'évangélisation explosive ici, c'est très bien. Et on essaye vraiment à ce que les gens apprennent à témoigner et amener d'autres au Seigneur. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas la garantie parce que quelqu'un a prié la prière du pécheur que finalement, la personne est vraiment née de nouveau. Alors, la condition du rétrograde. Quand on parle de gens qui rétrogradent, d'abord, il faut être sûr qu'ils soient vraiment nés de nouveau. Parce que ça, c'est le problème qu'on a. Beaucoup de gens viennent visiter les églises. Beaucoup de gens prétendent être des chrétiens. Mais on s'aperçoit qu'il n'y en a pas tant que ça qui sont de vrais chrétiens qui ont fait une expérience personnelle avec Christ, qui sont capables de témoigner d'un avant leur conversion, au moment même où ils ont reçu Christ. Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans leur vie personnellement et depuis, comment Christ a changé leur vie. Faisons attention, c'est pas parce que quelqu'un s'avance à un appel qu'il est né de nouveau à la sortie d'appel. Ce n'est pas parce que quelqu'un prie la prière du pécheur qu'il sort et qu'il est sauvé. Ce n'est pas parce que quelqu'un est guéri non plus, parce que vous avez prié pour lui et qu'il commence à venir à l'église, qu'il est sauvé. Faisons bien attention. Il y a des gens parfois aussi qui disent, ah, quand on leur demande leur témoignage, ils disent oui. Ah, moi, oui, oui, moi je suis chrétien parce que j'ai prié et Dieu un jour m'a répondu sur ça. Désolé, ça ne fait pas de toi un chrétien né de nouveau. Un chrétien né de nouveau, c'est quelqu'un qui va avoir sa vie complètement, radicalement, totalement transformée par la puissance de Dieu. Sinon, ce n'est pas un chrétien. Sinon, c'est un faux chrétien. Donc, soyons bien clairs. Certaines personnes, même après des croisades d'évangélisation ou des appels qu'on fait dans les églises, on dit oui, oh, Jésus. Jésus, mais c'est sûr.
Oh, yes,
maintenant, il est mon sauveur.
Moi,
je me souviens de quelqu'un un jour qui s'est approché ici dans cette église. La première fois que cette personne est venue, elle vient, elle s'approche à l'appel. Et puis, on avait été chez cette personne. Et cette personne même chantait pour Jésus entre guillemets.
Mais cette personne n'est pas
sauvée.
Je le sais. Je le sais. Parce que vous savez, on voit des fruits. Quand quelqu'un est sauvé, il y a des fruits. Il y a des fruits qui sont tangibles. Il y a des fruits qui sont tangibles. Jésus nous a prévenus dans Matthieu 13. Je ne vais pas refaire un enseignement sur cette parabole, parce que je vous ai fait plusieurs enseignements sur cette parabole. Mais c'est une puissante parabole des mystères du royaume de Dieu qui nous ont été révélés à nous, l'Église. Dans cette parabole du semeur, Jésus nous donne quatre terrains, vous vous rappelez. Le premier terrain, nous savons, c'est là où la semence tombe le long du chemin. Ce sont des gens qui ne sont pas sauvés, qui n'acceptent pas Jésus, et on sait, et ça se voit. Ils vous disent, moi, ça, Dieu ne m'intéresse pas. Ils vous disent, moi, vous savez, bon, c'est bien vos histoires, mais finalement, pour moi, non, personnellement, je n'en veux pas. Par contre, le deuxième terrain, ça, c'est un peu plus vicieux, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile à discerner. C'est là où on voit au verset 6, verset 5 et 6, d'autres tombèrent dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Ils levèrent aussitôt parce qu'ils ne trouvèrent pas une terre profonde, mais quand le soleil se leva, ils furent brûlés et séchèrent, faute de racines.
Et au verset
20 et 21, Jésus nous explique. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il est un homme du moment, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.
Kuri mirongo irati wabiwe ku rutare niwe yumva iryo jambo agaca ajyakirana umunezero ariko ntagira imizi muri we ahagara umwanya muto iyo yadutswe ko n'amarushwa cyangwa na kadenderezo azira iryo jambo bica bimutsitaza.
Et celui-ci, on sait une chose,
rero turazi ikintu,
c'est qu'il a été touché par le message de la bonne nouvelle dans son âme, dans sa personnalité. Donc il est content parce qu'on lui annonce une bonne nouvelle. Il est d'accord avec ça. On prie pour lui pour quelque chose. Il voit que Dieu agir parce que Dieu est bon et veut lui prouver son existence. Et cette personne est très joyeuse. Elle fait une grande déclaration. Mais le moindre truc, c'est fini, elle s'écarte. Moindre problème, moindre tribulation, quand le soleil, entre guillemets, des moments difficiles arrivent et chauffe, Jésus donne vraiment cette image, la semence, qui a l'air de pousser, mais manque de chance, en dessous, il y a des cailloux. Apparemment, en surface, on a l'impression que la personne se donne au Seigneur, et on est content, on se dit, ouais, gloire à Dieu, tu sais pas, j'ai on est mon voisin aujourd'hui, il s'est approché à l'appel, il a reçu le Seigneur. C'est formidable. Oui, mais vous cherchez les fruits, et il
n'y
en a pas. Et il ne peut pas y en avoir, parce que c'est une conversion émotionnelle. Donc ces gens-là, on ne peut pas les mettre parmi les rétrogrades. Et c'est là où souvent d'ailleurs on se trompe. Ce sont des gens qu'on a voulu, je dirais c'est une moisson qu'on a voulu faire, mais il faut le dire, le fruit n'était pas mûr. Ce sont des gens qui sont intéressés par Dieu peut-être, mais qui n'ont pas fait une repentance sincère. Ils ne veulent pas abandonner leur vie passée pour se donner réellement à Christ. Ils sont d'accord, ils trouvent qu'avec les chrétiens c'est bien, ils sont contents éventuellement d'écouter les jolis chants de la louange, ils sont très contents de circuler d'église en église éventuellement. Ce sont peut-être des déçus du catholicisme ou d'autres églises traditionnelles, ou peut-être qu'ils avaient envie d'un peu d'avoir un environnement social. Pas de fruits. Il
n'y
a pas de fruits. Donc c'est clair, ce sont des conversions émotionnelles. C'est dans leur âme. Ils sont contents pour un moment. Et quand les émotions sont passées, bye bye, il n'y a plus de Jésus. Non, tu sais, finalement, oui, bon, je me suis approché, mais bon, tu sais, c'était pour te faire plaisir. C'était pour, vraiment pour te faire plaisir. C'est parce que tu m'as dit, viens, on va devant, et tu vas recevoir le Seigneur. Ou c'est parce que tu m'as proposé de prier. Je peux pas refuser de prier. D'accord. Mais ça n'apporte pas une conversion. Quand quelqu'un se convertit, il y a quelque chose de réel qui se passe. Il y a les fruits d'une vraie repentance. Il y a le fruit de la vie de Dieu qui est venu dans la personne et qui commence à émerger dans sa vie, et toute sa vie commence à être entièrement révolutionnée de l'intérieur vers l'extérieur, non pas le contraire. Donc ces gens-là ne sont pas considérés comme des rétrogrades, parce que ce ne sont pas des vrais chrétiens. Ce sont des gens qui sont émotionnellement touchés. Le vrai rétrograde, c'est quelqu'un qui aura reçu Christ comme son personnel, qui va marcher avec Jésus, où on a vu les fruits d'abord d'une vraie repentance, où il est capable de témoigner d'un avant, d'un pendant, après, et on voit qu'il a marché avec le Seigneur. Mais au bout d'un moment, il va se passer quelque chose dans sa vie. Et c'est là où on va voir justement ce qui se passe. Parce qu'on va voir qu'il y a tout un environnement avant que quelqu'un ne rétrograde. Donc, les gens qui sont vraiment sauvés peuvent éventuellement rétrograder s'ils ne font pas attention. Alors, quelle est la condition d'un rétrograde? Chrétien né de nouveau. Parce que ça aussi, c'est souvent mal compris dans l'église de Dieu. Quelle est sa condition spirituelle? Quelqu'un où tu sais qu'il est vraiment né de nouveau. Et au bout d'un moment, il s'est écarté du Seigneur. D'abord, la Bible nous parle de certaines choses. Regardons ensemble. Par exemple, dans Galates. On reviendra en Galates 6. On reviendra dans ce passage un peu plus tard, mais c'est déjà. Regardons Galates chapitre 6. Et puis nous lirons aussi dans la première épître de Jean. Verset 1, Galates 6. Frère, si quelqu'un vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que toi aussi tu ne sois tenté.
Dans
la première épître de Jean, au chapitre 5, on va lire au verset 16. 1 Jean 5, 16. Je ne pourrais pas tout vous expliquer sur ce verset parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont impliquées dans ce verset. Il est dit si quelqu'un, 1 Jean 5, 16, voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie et Dieu lui donnera la vie. Il s'agit de ceux qui commettent un péché qui ne mène pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Alors qu'est-ce qu'un rétrograde? Un rétrograde, c'est quelqu'un qui va retourner dans le péché. C'est quelqu'un qui va s'écarter du Seigneur. C'est quelqu'un qui va endurcir son cœur. C'est quelqu'un qui va souiller sa conscience et qui au bout d'un moment va faire un choix. Le péché, quand nous péchons en tant que chrétiens nés de nouveau, il faut bien comprendre ce qui se passe. Nous ne sommes pas destitués de notre position de fils ou de fille de Dieu. Parce que ça aussi c'est quelque chose qui a été enseigné parfois et qui a fait du mal au corps de Christ. Si un chrétien pêche, le Saint-Esprit ne se retire pas de son esprit et il ne redevient pas pêcheur. Ça, il faut bien le comprendre. Par contre, il va se passer quelque chose dans sa relation avec Dieu qui va l'amener, s'il persévère dans le péché, à risquer d'enclencher un plan diabolique pour sa vie qui va l'écarter du Seigneur. Et c'est là où il y a le piège. Quand un chrétien pêche, il brise sa communion avec le Père. Il est hors communion avec Dieu. Mais le Saint-Esprit est encore là. Par contre, sa conscience, et rappelez-vous que la conscience est la voix de notre esprit. Et en fait, c'est la voix de notre esprit. Et cette voix, quand nous péchons, alors nous condamne. Elle nous dit non, ce n'est pas bien ce que tu as fait. Ce que tu as fait là, ce n'est pas bien. Et on peut désirer deux choses à ce moment-là. On peut faire deux choix. Nous sommes placés devant des choix. En tant qu'être humain, nous sommes placés devant des choix. Dans notre relation avec Dieu, nous sommes placés devant des choix. Quand un chrétien pêche, il a deux choix. Soit il dit Seigneur, j'écoute ma conscience et je te demande pardon. Et le Seigneur pardonne. La Bible nous dit, la première épître de Jean nous le dit, que si nous péchons, il est fidèle et juste pour nous pardonner, pour nous purifier et de nous restaurer dans notre justice. Et je vous rappelle que votre justice, c'est le fait que vous puissiez vous présenter devant Dieu sans condamnation, sans sentiment d'infériorité. Parce que lorsque nous péchons, notre conscience nous reproche, notre conscience nous condamne, notre conscience nous dit non, et nous perdons de l'assurance. Quand nous nous présentons devant Dieu, on ne se sent pas bien parce qu'on sait qu'on a péché. Quand on veut demander quelque chose à Dieu, on ne peut pas demander avec foi parce qu'il ne peut pas y avoir de foi dans le péché, etc., etc. Donc cette relation d'un seul coup est coupée. Cette relation est coupée et notre cœur, là où habite le Saint-Esprit, nous condamne. Et c'est là où il faut demander pardon à Dieu, se repentir sincèrement, et là il va nous purifier et nous restaurer dans notre relation avec Dieu. Maintenant il peut y avoir aussi quelque chose d'autre. Il peut y avoir un autre choix qui est le mauvais choix. Lorsqu'un chrétien marche avec le Seigneur, et quand nous marchons avec le Seigneur, il y a des moments où on chute dans le péché. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se restaurer régulièrement si on chute. Parce que sinon c'est très dangereux. Lorsqu'un chrétien n'accepte pas de se repentir, il commence à endurcir sa conscience. Il commence à dire à sa conscience, non maintenant tu te tais. J'ai choisi, je fais mon choix. Je choisis de continuer à marcher dans le péché. Et à ce moment-là, ça devient dangereux. Extrêmement dangereux. Donc sachez que quelqu'un qui est rétrograde, le Saint-Esprit n'est pas sorti de cette personne. Non, parce que si à chaque péché le Saint-Esprit sortait de nous, il faudrait qu'on renaisse de nouveau, qu'on renaisse de nouveau, et ça serait interminable. Donc ça, c'est pas scripturaire, et ce n'est pas défendable. Donc il est clair que quelqu'un qui pêche, un chrétien qui pêche, ne perd pas son salut. Soyons bien clairs là-dessus. J'ai fait plusieurs fois des enseignements justement à propos de cet épître de Jean, où je vous ai montré qu'il y a certaines conditions extrêmement difficiles à remplir, qui se sont seulement réservées à des gens qui ont reçu le Seigneur, qui ont vécu certaines choses très profondes dans le royaume de Dieu, qui peuvent être dans les certaines conditions que nous décrivent l'épître aux Hébreux. Donc faisons attention et comprenons bien la condition du rétrograde. D'ailleurs, si vous interrogez des rétrogrades, vous verrez que souvent ils vous diront une chose. Ils vous diront: mais moi je crois encore en Jésus. Tu sais, je prie même encore. Oh, même de temps en temps je viens à l'église. Il m'arrive aussi de temps en temps de lire la Bible. Le rétrograde en général ne renie pas Jésus. C'est très rare ça. Quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, c'est très rare qu'il dise vraiment: moi, Jésus, je n'en veux plus. Non, le problème que le rétrograde a, c'est qu'il n'arrive pas à tenir sa vie dans la sainteté. Ça veut dire qu'il est retourné dans le péché et il continue à marcher dans le péché, alors que Dieu voulait qu'il nettoie sa vie. Donc ne pensez pas, si vous parlez à des rétrogrades, vous verrez, ils vous diront: non, non, moi je crois en Jésus. Moi je sais que Jésus est Dieu. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Mais ils te diront: tu vois, bon, bah, oui, tu vois, j'ai fait telle chose, j'ai rencontré telle personne, j'ai fait tel choix, je marche comme ça maintenant aujourd'hui. Et vous voyez qu'ils se sont écartés parce qu'ils ont fait un choix de continuer à marcher dans une conscience qu'ils font taire. Ils font taire leur conscience. Et comme ils font taire leur conscience, eh bien, ils sont en dehors de la communion avec Dieu. Et c'est d'ailleurs très dangereux pour eux. Nous allons voir. Parce que vous voyez, les gens ne comprennent pas certaines choses. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, Dieu a mis dans sa parole un certain nombre de choses que nous devons faire. La Bible nous montre que nous devons nettoyer notre vie. Quand un pécheur vient à Christ, il doit faire du nettoyage. Il doit se mettre à part, se sanctifier. Ça veut dire d'abord se débarrasser d'une vie de péché, et ça veut dire s'approcher de Dieu, marcher avec Dieu, marcher selon sa parole, marcher dans sa présence, progresser, s'enraciner en lui. Et si un chrétien ne fait pas cela, il est en danger. Quand un chrétien commence à souiller sa conscience, à se mettre dans l'engrenage du péché, qu'est-ce qui se passe? Nous l'avons vu, il sort de la communion avec le Seigneur. Et il commence au niveau de l'église, qu'est-ce qu'il fait? Vous savez, l'église est une protection. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que l'église locale représente dans le cœur de Dieu. L'église est une protection. L'onction qu'il y a dans l'église vous protège. La parole de Dieu que vous entendez vous nourrit. Quand quelqu'un est faible parce qu'il n'est pas rechargé dans la présence de Dieu, quelqu'un est faible parce qu'il n'est pas nourri correctement, et bien il va s'écrouler. C'est vrai dans le naturel, c'est vrai dans le spirituel. Quand quelqu'un commence à marcher dans le péché, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à ne plus prier parce que sa vie de prière ne peut pas continuer, parce qu'il doit régler son problème. Et il commence à glisser, il commence à être de plus en plus rare à l'église, il commence à ne plus vouloir être trop près des chrétiens. Et c'est tout un processus où petit à petit cette personne s'écarte. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est observer les rétrogrades. Il commence à pécher et le péché commence à reprendre, je dirais, de l'ampleur dans leur vie. Et petit à petit, comme ils sont écartés de la relation avec Dieu, ils commencent à s'écarter de tout ce qui est Dieu d'une manière générale, tout ce qui est influence divine. Obligatoirement, ils glissent à nouveau dans l'influence du monde. Et là, ils sont en danger. Une brebis sans église locale, c'est une brebis qui est ouverte à tous les dangers. C'est une brebis qui se nourrira de poison. C'est une brebis qui est soumise à tous les prédateurs spirituels. Toutes sortes de choses vont se passer dans sa vie. Il y a tout un déclenchement de plans diaboliques qui pourront se faire parce que la personne s'écarte. C'est extrêmement dangereux. Les gens ne le réalisent pas souvent. Ils s'imaginent que bon, pour un temps, ils vont prier à la maison. Quand j'entends ça, quelqu'un dit le Seigneur m'a dit que il faut que j'aille prier à la maison maintenant. Je dis, toi, tu ne vas pas durer longtemps dans le Seigneur. Et c'est quasiment vrai à chaque coup. Les personnes s'écartent parce qu'elles ont un problème qu'elles n'arrivent pas à résoudre. Et c'est ce qu'on rencontre. Donc, le rétrograde, il est en danger. Il est en danger. Il est en dehors de la volonté de Dieu. Et il est une proie pour l'ennemi. Alors, pourquoi est-ce que des chrétiens rétrogradent? Pourquoi est-ce que des chrétiens rétrogradent? Pourquoi est-ce que quelqu'un qui est touché par la grâce de Dieu, qui s'est sincèrement repenti de ses péchés, qui est né de nouveau, va remettre son nez dans des choses que cette personne a vomi? Dans le naturel, vous savez, si on vomit, en général, on n'a pas envie d'aller remanger ce qu'on a vomi. Hein. C'est pas très agréable, n'est-ce pas? Hein, on s'en écarte. Et dans le spirituel, il y a un certain nombre de gens qui reviennent à ce qu'ils ont vomi. Ils reviennent au péché. Comment est-ce qu'un chrétien peut arriver à être si découragé? Parce que nous allons voir que des fois, des chrétiens sont découragés pour certaines raisons. Ou d'autres dégoûtés de la vie chrétienne. Qu'ils se coupent pendant des années et des années de la relation avec le Seigneur. Comment? Qu'est-ce qui se passe? Comment quelqu'un qui est touché par cette grâce? Regardons dans Ephésiens 6. La Bible est claire sur certaines choses. Vous savez, la Bible n'a pas été écrite pour nous laisser, à nous les chrétiens, un joli petit livre. Mais si la Bible a été écrite, c'est pour nous parler personnellement. Pour que dans notre vie chrétienne, nous puissions marcher droitement avec le Seigneur. Dieu n'a pas laissé sa parole pour que nous ayons un joli livre le dimanche matin. Mais au contraire, il nous a laissé sa parole pour que nous puissions puiser des vérités spirituelles et les mettre en pratique dans notre vie. Il est dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Il faut que vous compreniez que l'ennemi a des ruses. Ici, le mot ruse, c'est le mot grec méthodeia. Et ce mot en fait veut dire une ruse, une tromperie, une habilité à la tricherie, la fraude, une poursuite en vue de nuire, ou un guet-apens, un piège. Voilà ce que ça veut dire. Donc, la Bible nous dit clairement, la Bible nous dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre quoi? Contre les ruses, les pièges, les... tout ce qui veut essayer de nous nuire dans notre vie chrétienne et qui vient de l'ennemi. Ne pensez pas que quelqu'un qui rétrograde, c'est quelqu'un qui se lève un jour le matin et qui dit, ah, aujourd'hui je vais pécher et je pense que je vais continuer dans le péché et je vais abandonner toute cette vie chrétienne derrière moi. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est tout un plan qui est mis en place. Et vous savez, Satan se délecte. Il se délecte vraiment de voir des gens qui ont été touchés par l'amour et la grâce de Dieu et qui finalement après retournent dans le monde. Pourquoi? Parce que c'est un immense contre-témoignage de la vérité qu'il y a en Jésus. Quelqu'un, un jour, dit, ah non, moi tu sais, maintenant je ne fais plus ça. Tu sais, non, je ne fais plus ça. Ah bon, tu ne fais plus ça? Tu n'agis plus comme ça? Pourquoi tu cookies? Qu'est-ce qui s'est passé?
Hakurisik.
Non, tu sais maintenant, moi j'ai Jésus. Moi j'ai reçu Christ.
Christ.
Moi j'ai ma vie qui a été changée par le Seigneur. Moi je sais que maintenant je suis sauvé. Donc tu sais ces choses-là, non, ne me les propose plus, c'est terminé. Et souvent les inconvertis, quand on se donne au Seigneur, ils insistent pour nous ramener dans leur truc. Et au bout d'un moment, tu dis
non,
maintenant c'est fini ça. Ça je ne veux plus retomber là-dedans. Donc je coupe. Et même certaines relations, tu les as coupées. Pourquoi? Parce que tu as reçu le Seigneur. Tu as accepté Christ. Tu as découvert la vie éternelle. Et tu commences ta vie chrétienne. Et puis tu continues ta vie chrétienne. Et alors les gens à qui tu as dit ça, ils voient bien que apparemment c'est définitif. Ils ne viendront plus te chercher pour aller pécher avec eux. Parce qu'ils savent que tu ne marches plus dans leur cour. Ils savent que tu as changé. Et ce que tu as dit, c'est Christ,
Christo,
qui m'a touché,
Yankozeko,
qui m'a transformé.
Yamindu.
Certains même, on les a même amenés à l'église. Ils ont entendu le message. Certains ont été sauvés. D'autres sont restés dans le monde. Et ceux qui sont restés dans le monde, on les salue encore aujourd'hui. On les voit plus ou moins. Et ils savent très bien qu'aujourd'hui, nous sommes sauvés. Nous ne marchons plus dans le péché parce que nous avons Jésus-Christ comme sauveur personnel.
Amen.
Ça, c'est super.
Il vient de viser Chan.
Mais le contraire fait beaucoup de mal. Autant quelqu'un qui se donne à Christ va attirer un certain nombre d'autres personnes, autant quelqu'un qui va rétrograder va repousser des gens qui se donnent à la vérité. Et Satan aime vraiment ça. Quand il y a des gens qui commencent à témoigner de Christ, par exemple des gens connus qui se donnent au Seigneur, qui commencent à être invités dans des églises, qui étaient peut-être des stars, et d'un seul coup ils se donnent au Seigneur et disent voilà, maintenant j'ai Jésus-Christ comme sauveur personnel, etc. Et puis tous les gens le savent. Et puis d'un seul coup, ils reglissent dans le péché. Et ils sont un contre-témoignage. Et là, les inconvertis qui ont entendu ces témoignages-là, c'est ça leurs histoires de chrétiens. C'est ça leurs histoires de nouvelle naissance ou je ne sais pas trop quoi, là. Etc., etc. Et ça donne un contre-témoignage. Et le diable aime trop ça. Il aime trop ça. Là. Parce que c'est un terrible contre-témoignage à la vérité qui est en Jésus-Christ. Donc c'est très important de comprendre que les rétrogrades sont des instruments malheureux, des victimes, mais de leur faute, c'est clair, du diable.
Satan
c'est clair. Il les utilise. On connaît tous ce chanteur R.
Kelly.
Et R. Kelly a fait des chansons pour le Seigneur fantastiques. Mais aujourd'hui, c'est horrible de voir le contre-témoignage que cet homme est. Alors que vraiment, il faisait des chants hyper inspirés. Et aujourd'hui, il est complètement retombé dans le monde. C'est un contre-témoignage. Et il est sur les télévisions avec les clips et des machins et des. Et alors, des fois, on voit les clips d'R. Kelly qui était dans le Seigneur, et on voit à côté les clips d'R. Kelly qui n'est plus dans le Seigneur. Plus une personne est connue, plus quand elle rétrograde, ça a un mauvais impact, un impact négatif. Et vous voyez, on a besoin, frères et sœurs, de comprendre le processus d'abord, du rétrogradage. Satan va utiliser des méthodes. Satan va commencer à mettre un certain nombre de plans, de choses autour de la personne pour essayer de la récupérer, pour la ramener à se remettre dans le péché et à devenir stérile. Stérile pour le royaume de Dieu. Mais ce sera une victime. Une victime de l'ennemi. Ça sera quelqu'un qui va renier ce qu'elle était, c'est-à-dire sa vie chrétienne d'une manière générale. Et ça, ça fait du mal. Mais sachez qu'il y a tout un plan qui se met d'abord en action. Ces choses ne se passent pas du jour au lendemain. Alors, une des raisons pour lesquelles les gens rétrogradent, bien sûr, c'est le problème du péché. Certains se mettent dans le péché et commencent à rejouer avec le péché. Et ça, il faut faire très attention. Vous savez, au niveau du message que nous devons donner, et nous les pasteurs, nous avons une responsabilité importante. Mais nous avons, il y a aussi pas mal d'enseignants qui ont pas mal de responsabilités par rapport à ça. On ne peut pas enseigner que la bénédiction. Ça, je suis désolé de le dire. La dernière fois, je regardais TBN et il y avait quelqu'un qui était interviewé et ce frère donc parlait de l'enfer et parlait aussi du péché. Et celui qui interviewait ce frère, il disait ça fait bien longtemps que sur la chaîne la chrétienne, on n'a pas eu quelqu'un qui a été très clair vis-à-vis du péché de l'enfer. Et je crois qu'il faut être clair. Nous pouvons parler bénédiction, oui. Mais bénédiction implique une marche dans la sainteté. S'il n'y a pas d'équilibre, les gens commencent à être bénis. Ils sont touchés dans la présence de Dieu. On les amène dans une louange et adoration vivante. On les amène à leur montrer que au travers de l'évangile, il y a d'immenses bénédictions qui peuvent couler dans leur vie. Et ça, c'est très bien. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Si la personne ne nettoie pas sa vie à côté, toutes ces belles bénédictions un jour s'écrouleront. Et c'est pour ça que des fois il y a des personnes qui vraiment marchent dans la foi, la bénédiction. Et c'est un puissant message qu'il faut continuer à enseigner et à prêcher, mais jamais sans l'aspect de la sainteté. Parce que quand une personne est super bénie, elle va être aussi super tenté. Vous ne faites pas d'illusions. Les gens qui sont amenés à être super bénis, ils sont aussi super tentés. Parce que le diable vise des gens qui sont bénis par Dieu, des gens qui portent des fruits pour le royaume de Dieu. Et à ce moment-là, si cette personne commence à céder au péché, à la tentation, et commence à ne dire bon, c'est pas trop grave, il faut que vous sachiez une chose. Le péché a toujours des conséquences insoupçonnées dans nos vies. Un péché qui est caché, qui n'est pas confessé, a obligatoirement des conséquences qui sont importantes. Il y a plein de choses qui sont des conséquences à partir du moment où nous nous mettons dans le péché. C'est très clair. Qu'un chrétien pêche, ça peut arriver et ça arrivera obligatoirement dans la vie. Ça c'est clair. Par contre, qu'un chrétien ne prenne pas au sérieux le péché dans sa vie, ça c'est extrêmement mauvais. Et il y a des gens qui commencent à faire ça. Alors ils sont bénis, ils sont touchés par Dieu, grâce de Dieu, remplis du Saint-Esprit, ils commencent à marcher dans le Seigneur, ils commencent à connaître les bénédictions du royaume, ils sont bien, tout va bien dans leur vie. Et d'un seul coup, le diable, vous savez, le diable n'essaye jamais de toucher un endroit où ça nous fait pas mal. Vous avez remarqué ça? Le diable ne nous tente pas sur des trucs qu'on n'a pas envie. Par contre, il nous tente toujours sur des domaines où nous avons des faiblesses. Donc, il faut être prudent par rapport à ça. Parce que c'est très clair. Quand, si nous commençons à céder au péché, il y a un engrenage qui se met en marche. Et cet engrenage a souvent des conséquences que nous n'imaginons pas. J'ai eu le triste témoignage. Aujourd'hui, on parle des rétrogradages. Alors, je suis obligé de vous donner un certain nombre de témoignages qui ne sont pas très joyeux. Je suis désolé. Mais j'ai eu le témoignage récemment de quelqu'un qui me parlait d'un conseiller de l'église qui était conseiller ici même dans cette église. Et cette personne a commencé à marcher dans le compromis avec des histoires de copinage. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette personne a chuté dans le péché. C'est un frère, il a mis enceinte donc quelqu'un, une fille. Et cette fille donc a eu un enfant. Et il a persévéré dans son péché. Il n'a pas voulu reconnaître l'enfant. Et évidemment, il s'est écarté du Seigneur. Il s'est écarté de tout ce qui était Dieu. Et le pire, après, il s'est remis avec une autre fille. Et engrenage après engrenage après engrenage. Et aujourd'hui, sa vie est complètement par terre. Les conséquences du péché sont immenses. Nous devons être prudents par rapport à ça. Si nous marchons dans le compromis, si nous laissons notre conscience nous accuser, alors c'est extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Celui qui se dit qu'il peut marcher dans le péché et en même temps marcher dans la bénédiction, tu vas avoir le meilleur enseignement du monde. Tu peux connaître les meilleures choses du royaume de Dieu. Tu peux avoir goûté certaines choses. Si tu commences à te dire que le péché, ce n'est pas quelque chose d'important, que tu peux prendre ça à la légère dans ta vie, sache une chose, tu vas déclencher un engrenage. Un engrenage qui est extrêmement dangereux. Regardons encore cette épître de Jean, la première épître de Jean. Première épître de Jean, toujours. Il y a quelque chose de puissant ici qui nous est dit. Verset 18, il est dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Donc qu'est-ce que la Bible nous dit ici? À partir du moment où quelqu'un commence à pécher, il ouvre des portes à ce que l'ennemi puisse mettre en place dans sa vie un certain nombre de jalons qui vont le diriger vers le fait de rétrograder. J'appelle pas ça du rétrogradage, je sais pas si c'est très français le rétrogradage, mais peu importe. Et en fait on s'aperçoit que ces personnes-là ne réalisent pas dans quoi ils sont en train de se mettre. Quand tu commences à te mettre dans un engrenage, tu peux tout perdre. Si on avait le temps d'étudier Samson, Samson, c'est quelqu'un qui vraiment a été oint par Dieu. Et il a commencé à se mettre dans le péché. Et l'onction de Dieu marchait avec lui. Et sa vie a été une ruine. Parce qu'il avait un problème sérieux. Et il a été de péché en péché en péché. Et il est mort prématurément. Donc la Bible est très claire là-dessus. On pourrait étudier bien des cas bibliques où ça nous montre que vraiment le fait de commencer à mettre le doigt dans l'engrenage, c'est là où au bout d'un moment on se fait aspirer avec tout un tas de conséquences qu'on ne maîtrisera plus au bout d'un moment. Ne mettons jamais la roue du péché en action dans notre vie. Tu sais où ça commence et tu ne sais pas où ça va te mener. Donc sois extrêmement prudent. Dieu nous parle et nous prévient dans sa parole que ça peut ruiner complètement notre vie. Le péché a des conséquences destructrices dans la vie des chrétiens. Quand un chrétien veut commencer à marcher dans le péché, il commence à faire taire sa conscience, il risque vraiment de se retrouver avec beaucoup, beaucoup de problèmes. Beaucoup d'effets secondaires. Vous savez, c'est comme les médicaments. Il y a des effets secondaires dans les médicaments. Certains, c'est terrible. Il y a des personnes qui ne supportent pas certains médicaments qu'ils peuvent avaler parce que d'un seul coup, ils vont avoir à côté de ça, pensant être guéris d'une maladie, ils se retrouvent à côté avec tout un tas d'effets secondaires qui les rendent encore plus malades. Le péché, c'est ça. C'est un médicament dont tu n'accepteras jamais les effets secondaires. Tu n'auras que des problèmes, des conséquences que tu ne maîtrises pas. Et ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles on voit des gens rétrograder. Quelqu'un qui veut se marier à un inconverti, par exemple. Ça, c'est terrible de voir le nombre de gens comme ça qui prennent cette opportunité-là. Mais il m'aime. Mais je l'aime. Donc, c'est Dieu qui l'a envoyé. Aïe, aïe, aïe. Mais je vais faire l'affaire du siècle. Bon, c'est vrai, il a fallu quand même. C'est pas trop grave. On a prié puis on a aidé le Seigneur. Il y a plein de trucs comme ça qui se passent. Le jour où tu mets ton doigt là-dedans, je te garantis, tu ne sais pas dans quelques années où tu seras. Tu ne sais pas où tu seras. Et souvent, malheureusement, quand on s'y est mis et qu'on voit les conséquences que ça commence à porter, on se dit, oula, je suis en train dans une spirale qui est un truc qui m'aspire. et je ne contrôle plus.
Non,
tu ne contrôleras plus. Parce que tu as mis la machine en marche. Et comme tu as mis la machine en marche, tu es en danger. Tu as ouvert des portes. Donc tu es en danger. Et une des grandes raisons pour lesquelles les gens rétrogradent, c'est pour cela. Parce qu'ils commencent à mettre le doigt dans l'engrenage sans mesurer les conséquences, les effets secondaires, tout ce qui va se passer, tout ce qui va découler de ce genre de choses. Et au bout d'un moment, vous allez voir la personne. Comme sa communion est coupée avec le Père. Le fait que sa communion soit coupée, cette personne ne trouve plus de ressources spirituelles. Et cette personne s'affaiblit rapidement. Elle s'affaiblit. Elle s'écarte des frères et sœurs. Elle s'écarte de la parole de Dieu. Elle s'écarte de l'église. Elle s'écarte de tout. Elle s'isole. Et c'est la prophétie. La brebis qui s'est écarté de la bergerie. La brebis qui n'est plus en communion avec le grand berger des brebis. La brebis qui n'est plus ressourcée. C'est la brebis qui s'égare. La brebis qui est ouverte à tous les dangers. Et les gens pensent que ce n'est pas vrai. Et les gens disent, non, tu sais, ça va bien. Bon, c'est vrai. La vie chrétienne, c'est plus... Tout à fait, on va utiliser quand même. Tout à fait comme avant. Non, c'est plus que c'est plus tout à fait comme avant, c'est que c'est plus du tout comme avant.
Alors que ce couvert est tellement
que et la personne a glissé. Et elle glisse de plus en plus. Et elle s'enfonce de plus en plus. Ne jouez jamais avec ça. Si vous jouez avec ça, vous serez surpris. Un jour, vous vous réveillerez et vous direz, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a tout un tas de trucs qui sont mis en marche dans ma vie. Il y a tout un tas de conséquences. Et vous vous retrouvez complètement écarté de la voie du Seigneur, dans une voie de garage. Et il y a des gens comme ça, pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, ils vont construire leur vie. Ils vont passer à côté du plan merveilleux que Dieu avait pour eux. Satan aura réussi au travers de la chair de la personne à mettre son plan en action et la personne va s'écarter. Et vous savez, les années, on ne peut pas les racheter. Si
tu
as passé 10 ou 20 ans en dehors de la communion avec le Seigneur, tu as construit des choses entre-temps et des choses qui sont misérables. Et tu ne peux pas refaire les 10 ou 20 ans en arrière. Tu peux revenir au Seigneur, mais tu ne peux pas refaire ces années-là. Ces années-là sont perdues. Ces années où tu aurais pu porter du fruit pour le royaume de Dieu. Une des raisons d'être pour lesquelles tu as été sauvé tu as perdu ces fruits. Tu n'as pas porté les fruits que Dieu voulait. Et c'est dommage. C'est un manque pour le royaume de Dieu. Parce que quand il y a une brebis qui vient dans le royaume, si quelqu'un est sauvé, c'est un plus pour le royaume de Dieu. C'est un plus pour la vie de la personne, mais c'est un plus pour le royaume de Dieu, pour que Dieu puisse établir son royaume sur cette terre. Ce n'est pas un moins, frère. Nous continuerons dans un sermon suivant parce qu'il y a encore bien d'autres raisons pour lesquelles les gens rétrogradent. Là, ce matin, je vous ai fait une introduction simple et je vous ai donné la première raison pour laquelle les gens rétrogradent. Mais je vais vous en donner d'autres par la suite. Vous allez voir qu'il y a d'autres raisons. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Passez un bon dimanche.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.